Tech Café, c'est votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Dans cette émission, nous allons vous parler du futur iPhone « pas cher », entre guillemets, l'iPhone SE 2, à moins que l'on ait trouvé un autre nom, de l'écologie pénalisée par la fonction d'Apple, Activation Lock, des moyens de déverrouiller son smartphone avec les reconnaissances d'empreintes digitales directement dans l'écran, de la 5G, mais nous vous parlerons également du rachat donné par PayPal, du départ, là aussi on peut rajouter les guillemets, des deux fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, qui laissent les clés de la maison mère Alphabet à Sundar Pichai, de Magic Leap, et puis bien sûr nous aurons également une petite rubrique jeux vidéo, les news en vrac et nos bonus. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, plus que jamais. Et puis, dans le froid de ce mois de décembre, dans cette période de grève, dans cette période de fébrilité à l'idée de devoir se procurer les cadeaux de Noël, je retrouve un chroniqueur qui apporte à l'actu tech ce que le Père Noël apporte au pied du sapin, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
J'arrive avec tous mes cadeaux.
J'étais sûr que tu ferais ton... Bon, allez, un petit rappel avant qu'on parle de... on a plein de petits rappels à faire avant d'attaquer les news. Déjà, je vous rappelle que Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon. patreon.com/techcafé, vous aurez toutes les infos. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi de soutenir l'émission à partir d'un euro par semaine et plus, évidemment, si affinité. Merci en particulier à Arakin, Julien Brun, Yannick Bornet et Adrien Guioni. Merci beaucoup à vous, et normalement vous avez reçu un petit message en vidéo qui vous était personnellement adressé. Bienvenue dans la famille des soutiens à Patreon. Une petite évaluation Apple Podcast, parce que je t'ai envoyé un petit mot, Guillaume, je suis sûr que tu as pris plaisir à voir ça, mais j'ai collecté tous les avis Apple Podcast sur Tech Café sur le site techcafé.fr, donc vous pouvez tous les dérouler, revoir l'avis que vous aviez pu déposer à l'époque, ce qui vous incitera éventuellement, si vous le souhaitez, à le mettre à jour. Et alors, je vous cache pas que quand on a des petits coups de déprime, il suffit d'aller sur cette page et voir tous les excellents retours que vous faites sur Tech Café, qui est, pour la petite anecdote, dans une moyenne de 5,0 sur 5, tellement que vous faites beaucoup de bonnes évaluations positives sur Tech Café, comme l'a fait par exemple Clown 5, indispensable, une info fraîche, claire, précise, exhaustive et sans dérive. Pour moi, si la perfection existe en matière de podcast tech, elle est dans les propos des Guillaume et de leurs invités. Merci, merci, merci. Eh ben, merci à toi, Clown 5, et faites comme lui, afficher au monde entier la qualité du podcast sur Apple Podcast. J'ai un petit retour aussi, Guillaume, que je voulais citer de la part de Spop en commentaire, qui a réagi à l'épisode des puces à l'oreille, qui est dit « Hello, alors merci pour cet épisode, donc très intéressant à suivre. Je souhaitais juste apporter quelques précisions sur Starship. Le système de transpiration décrit a été abandonné il y a quelques mois déjà. La double coque nécessaire a porté trop de poids et c'est finalement un système de tuiles faites maison qui a été retenu. Ces dernières sont censées être peu chères, réutilisables et faciles à changer en cas de besoin. » Et il nous donne quelques liens que vous retrouvez dans les commentaires de l'article qui accompagne la publication de l'épisode sur techcafé.fr. Et bah, je continue son commentaire, hein. Le reste était parfait. Alors, je pense qu'on peut être satisfait, tu peux être satisfait, je pense, Guillaume. Juste à préciser que pour le moment, les Starlink en train d'être déployés ne communiquent pas encore entre eux par laser. Ce point très complexe étant encore en développement, la précision du ciblage à cause des vitesses relatives étant la difficulté. Et puis, il nous redonne un article. Encore merci à vous, toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup à toi, Spop, de savoir que tu nous écoutes et puis de déposer ton petit commentaire en retour. Ça fait très chaud au cœur. Tu vois, on réagissait, hein, Guillaume, ensemble, on discutait sur la précision des lasers. Il semblerait qu'effectivement ce soit pas si évident que ça. Nul doute qu'ils vont trouver une solution. Allez, dernier élément d'auto-promo, c'est Tech Santé, le troisième épisode qui est disponible. Il est désormais disponible aussi avec son flux à part entière. Donc vous allez le voir apparaître dans le flux de Tech Café dans les jours à venir. Mais vous pouvez aussi écouter Tech Santé en avant-première dans le flux dédié que vous retrouvez sur Apple Podcast, mais sur toutes les applications de podcast habituelles. On en avait des choses à dire, Guillaume, hein, aujourd'hui. Il y avait de l'actu.
Oui, c'est vrai, mais c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous, donc, de toutes ces évaluations positives, toujours très positives. Et puis aussi, merci de vos commentaires dans les notes de l'émission. Et effectivement, hein, il faut pas hésiter quand vous avez des précisions à apporter. Voilà, j'étais pas complètement à jour, hein, sur Starhopper. Bah, écoute, voilà, merci beaucoup d'avoir contribué. C'est aussi ça. C'est très bien, cette interactivité. C'est très agréable.
continuer, c'est enrichissant. On a des news à chaud d'abord, parce que, et moi j'avoue que quand j'ai vu l'info, je me suis dit, ça ressemble à un poisson d'avril, ça ressemble à un Gorafi, ça fait quand même bizarre, mais ça permet de montrer des jeunes filles dénudées dans l'actu tech, donc certains se rinceront l'œil, mais il y a effectivement une petite info qui est sortie, c'est celle d'un nouveau smartphone pliant, donc c'est pas Xiaomi, c'est pas Samsung, c'est pas Huawei, mais c'est un autre acteur qu'on ne connaissait pas bien dans le monde de la tech qui propose une version relativement bling bling d'un smartphone pliant, Guillaume.
Ouais, bah oui, dans ta veille, parfois, t'as des moments what the fuck comme ça, tu as des moments où tu te dis j'aurais tout vu. Et d'ailleurs, t'es persuadé que c'est le cas, hein, jusqu'au prochain moment de ce type qui arrive à peu près deux jours après. Et bon, bah cette fois-ci, c'est le clan Escobar qui nous gratifie d'un what the fuck de qualité, hein, après avoir lancé une crypto l'an dernier, qui s'appelait le Ditecoin, le Ditebitcoin.
Je l'avais pas vu du tout, celle-là.
Ah, non, non, absolument plus parlé. D'ailleurs, j'ai même pas été capable de trouver le cours actuel du Ditebitcoin, donc je sais même pas s'il existe, ce truc. Toujours est-il que Roberto Escobar, 72 ans, et je crois que c'est l'ex-comptable, en fait, de son frère, non, Pablo Escobar.
D'accord.
Ah oui, en plus, oui, et qui lance un téléphone pliable. Et il est concurrent de tout le reste du monde, en fait, hein, de tout le monde de la téléphonie, puisque le frère du narcotrafiquant préféré des petits et des gros annonce qu'avec son prix de $350 mannequin russe non inclus, hein, l'Escobar Fold 1 est le meilleur téléphone du monde. Bon, en fait, ouais. Si pas, je te souviens, c'est un FlexPi de Royole. En version
oui,
bling,
hein,
comme tu dis, puisque le dos est doré, enfin voilà, effectivement. Il a, sur le papier, il a une fiche technique intéressante, hein, mais il a probablement les mêmes problèmes que l'appareil qui a été présenté au CES de janvier dernier, quand même. Hein. Savoir la prise en main, une ergonomie qui est pas forcément géniale, une fragilité, c'est pas trop, une épaisseur surtout, puisque ça se plie, mais ça se plie pas du tout à plat, quoi. Il y a un moment, un gros espace au niveau de la pliure. Et bon, cela dit, le Royal coûtait à l'époque plus de $1,200. Donc là, là, il est quand même 4 fois moins cher, donc la donne change peut-être. Bon, et Robert se dit aussi que, du coup, on peut se vivre en concurrent direct de Samsung, de Motorola, mais surtout d'Apple, parce que chez Apple, ce sont des escrocs, je cite. Ils vendent des téléphones bas de gamme surfacturés, qu'il est temps que justice soit faite. Donc Roberto entend déposer un recours collectif en janvier 2020, devant les tribunaux californiens, avec à la clé un dédommagement de $30 milliards. Ça semble même être une blague. Hein. Il a annoncé au Télégraphe, d'ailleurs, qu'il entendait devenir plus gros qu'Apple dans les 4 ans, un objectif qu'on peut qualifier d'ambitieux. Ben, puisqu'on y est, et d'ailleurs, il poursuit aussi Netflix pour avoir diffusé des scènes non autorisées dans Narcos, pour $1 milliard quand même, et il poursuit aussi The Boring Company, parce que, figure-toi que le lance-flamme de The Boring Company, ben, c'était son idée à lui.
Ah,
il est fabuleux. Et donc, effectivement, ça servira probablement de cover à cet épisode, hein. Il a fait une publicité avec des mannequins russes, enfin, peut-être sont pas toutes russes, mais bon, il y a des mannequins russes dans les... Ces mannequins russes qui sont bien entendus en lingerie, parce que comment mieux vendre un téléphone qu'avec des nanas en soutif.
C'est tellement grossier, sans doute.
Tout ça est d'une finesse et d'une élégance tout à fait rare. Voilà, on vous laisse évidemment regarder la vidéo, parce que ça vaut quand même le coup d'œil, ne serait-ce que pour la blague.
Je crois que sans vouloir défendre aveuglément Apple, encore une fois, qualifier les smartphones, les produits Apple en général, d'appareils bas de gamme et qui sont vendus très cher, il y a toujours, encore une fois, mais on le dit assez régulièrement dans Tech Café, hein, cette association du prix auquel est vendu l'appareil et du prix théorique que coûte l'appareil. Et évidemment, il y a une vision, à mon avis, très biaisée là-dedans, mais qui est valable pour tous les smartphones d'ailleurs et plein de produits dans la tech, c'est qu'on peut pas réduire un produit à l'assemblage de ses composants, mais il y a évidemment plein de choses qui tournent derrière. En tout cas, dans le cas d'Apple, il y a toutes les infrastructures cloud, tous les services, il y a évidemment toute la R&D, bon, évidemment le marketing, il y a tout ce qui tourne derrière et on peut pas résumer évidemment un produit à ce prix-là. Bon, c'est ambitieux, effectivement. Rendez-vous dans 4 ans, donc si je dis pas de bêtises, en décembre 2023, pour voir si Pablo... pardon, le lapsus. Si le clan Escobar a réussi son pari de devenir plus gros qu'Apple. On va parler de plein de produits qui se mettent dans la poche, comme je vous l'ai dit en intro, à commencer par le iPhone SE 2, puisqu'il est assez présent dans les rumeurs, hein. Vous le savez, la saison des rumeurs, et c'est un peu toute l'année en fait concernant les iPhones, mais là on nous parle pas de l'iPhone 12 qui pourrait arriver, même s'il y a quelques éléments de roadmap de ce qui pourrait arriver pour l'iPhone 12, mais on nous parle de l'iPhone SE 2 qui pourrait évidemment être, on se l'imagine, un carton commercial. Vous vous rappelez probablement du iPhone SE qui reprenait le design global de l'appareil de l'iPhone 5, mais qui avait des composants à jour, ben là, l'idée serait un petit peu la même. Ce serait de reprendre le design de l'iPhone 8, donc sans la petite encoche, avec le petit Touch ID, le petit bouton, le même gabarit globalement, mais avec des composants actualités. Je trouve que l'idée est toujours assez excellente, avec un prix évidemment bien plus accessible que les smartphones habituels d'Apple. Et en l'occurrence, là, il y a des petits malins qui ont commencé à identifier le fait que ça pourrait, selon les rumeurs qui circulent, non pas s'appeler l'iPhone SE 2, qui, il faut le reconnaître, n'est pas le nom le plus sexy d'iPhone qu'on ait pu voir, bien qu'on est habitué maintenant à des noms d'iPhone un peu originaux, mais l'iPhone 9. Taux de crédibilité de cette rumeur, Guillaume, selon toi ?
Et ben moi, en fait, ce qui m'a tué, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas d'iPhone 9. J'avais pas réalisé jusqu'à maintenant. C'est fou.
Oh, mais c'est que t'es pas un vrai fanboy du tout, alors.
Non, mais c'est ça. Ah bon, il n'y a pas d'iPhone 9 ? Et non. Ah, d'accord. Et oui, alors moi, en fait, ce qui m'étonne un petit peu, c'est est-ce qu'Apple va oser, en 2020, donc, sortir un téléphone avec un écran LCD de 4 pouces 7 et des bords aussi larges qu'il y a 3 ans, quoi.
4,7 pouces, ça me paraît pour le coup très très petit. L'iPhone 8 n'a pas 4,7 pouces, si je dis pas de bêtises. 4,7 pouces, c'était pas la taille de ce qui était au niveau du 4 ou du 5.
Alors moi,
en termes de rapport de taille, en tout cas, l'iPhone 8
est
un plus grand écran.
5 pouces, hein, l'iPhone 8, c'était pas dans les 5 pouces le 8 normal.
On va regarder. Je continue. C'est 5,5 pouces. Ah non, c'est pour l'iPhone 8 Plus, donc tu dois avoir raison. 4,7 pour le 8.
C'est à peu près
5
pouces. Donc, sortir un truc 5 pouces, surtout avec les bords, c'est-à-dire de l'époque, et donc un encombrement qui est bien au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui pour 5 pouces, ça me paraît un peu compliqué, à moins de le placer à un prix, si tu veux, qui vraiment serait très très intéressant. Après, je peux me tromper, mais c'est vrai que ça me paraît être un design un petit peu daté maintenant quand même, l'iPhone 8. Je sais pas ce que t'en penses. Mais...
Alors oui, évidemment, il est passé. Maintenant, honnêtement, quand on regarde dans les usages au quotidien, il y a énormément de personnes qui sont ravies d'avoir la taille de l'iPhone 6, 6, 6, 7, 8, etc. Et ils apprécient particulièrement la taille de l'iPhone 10 et évidemment 10S. Et la dernière gamme, on le sait, le standard, c'est le 11, mais qui est l'équivalent du 10R de l'an dernier. Donc, sans trop rentrer dans les détails de taille de smartphone. En gros, la taille un peu compacte avec l'écran qui prend une bonne place, c'est un peu le haut de gamme maintenant. Si tu viens sur la génération de l'an dernier avec le 10R, t'as l'écran LCD comme le 11 cette année, avec des smartphones qui sont finalement très grands. Et je sais qu'il y a plein de monde qui n'apprécie pas cette taille d'écran et qui sont obligés de se rabattre sur l'iPhone 10 ou 10S s'ils veulent pas acheter le 11 Pro qui est hors de prix.
Mais ce que je voulais dire justement, c'est que là, l'iPhone 9 a le même design que l'iPhone 8, tu vas te retrouver avec un rapport taille sur taille sur surface écran qui est aujourd'hui complètement à la ramasse, quoi.
Comme l'était l'iPhone SE à l'époque.
Mais si tu veux, aujourd'hui que tu peux avoir des téléphones à 150 balles qui sont quasi borderless, ou à 200 balles qui sont borderless,
Le problème était équivalent à l'époque. Le problème était équivalent à l'époque de l'iPhone SE. Si tu regardais, il y avait plein de propositions de smartphones concurrents sur Android qui avaient des écrans bien plus grands et qui avaient des form factors très intéressants pour des prix bien plus intéressants. Donc, écoute, on verra. Ça, c'est juste pour le suivi des rumeurs. Par contre, il y a quelque chose qui fait aussi l'objet de l'actu tech en ce moment. C'est une critique sur la fonction d'Activation Lock. Alors, juste avant que je te laisse dérouler un petit peu en quoi ça fait polémique en ce moment, il faut rappeler Activation Lock, c'est cette capacité qu'ont, en l'occurrence, les iPhones à être géolocalisés tout le temps. Mais si jamais vous les réinitialisez, si jamais vous les remettez à zéro, comme si vous formatiez, que vous réinstalliez iOS au départ, par exemple, au moment de le vendre, si, avant de le faire, vous n'avez pas désactivé une fonction de géolocalisation, la personne derrière ne va vraiment pas pouvoir l'utiliser et il va être quelque part bloqué. Ça pose problème, ça, Guillaume.
Ouais, cette semaine, c'est iFixit qui a attiré l'attention sur un phénomène qui est un peu méconnu, je pense, c'est le problème du recyclage, du refurbishing, comme ils disent, des iPhones, parce que c'est bien sécurisé, donc un iPhone, effectivement, si c'est pas correctement réinitialisé par le vendeur ou le donneur, enfin celui qui donne l'appareil, du coup, tu peux rien faire, en fait, et ça arrive souvent, enfin, tu peux rien faire, disons que tu peux pas... bah déjà tu peux pas le débloquer, tu peux pas changer le nom, tu peux pas télécharger des logiciels, enfin tu peux pas t'en servir correctement.
Tu peux même pas l'installer avec un nouveau compte, je crois. Hein.
Ben c'est ça, tu peux pas changer de compte, rien. Donc c'est vrai que ça le rend complètement inutilisable. Et dans le secteur du recyclage, ça se traduit par des téléphones qui sont complètement fonctionnels, qui partent à la benne ou qui partent à la destruction, quoi. Donc c'est ballot, ça pourrait en plus empirer avec l'intégration des puces T2 dans les MacBooks, et bientôt, donc en plus des iPads et des iPhones, donc les futurs anciens ordinateurs pourront aussi devoir être détruits juste parce qu'on peut pas les réutiliser. Alors c'est vrai que c'est une question d'information côté utilisateur, hein, comme tu l'as dit, c'est la fonction Find My Phone, en fait, qui active une protection qui rend impossible à quiconque d'autre, en fait, que le propriétaire, de le remettre à zéro et pour l'utiliser. Et mais de l'autre côté, c'est vrai qu'Apple rend pas les choses super claires non plus. Il facilite pas la vie des recycleurs, surtout. Hein. Donc, bon, du côté des Mac, pour l'instant, l'Activation Lock, à proprement parler, n'est pas encore présent, mais il y a tout de même des mots de passe firmware qui bloquent à peu près tout. Et d'après un recycleur, 20% des MacBooks qu'il reçoit sont loqués de cette façon. Ils doivent utiliser un outil spécial pour déplomber, outil qui n'est même pas légal, hein, alors que les machines qui ont été acquises de manière parfaitement légale, quoi. Hein. Mais bon, si c'est ça ou le broyeur, ben voilà. Donc les produits Apple sont sécurisés, hein, ce qui est bien, mais c'est aussi un vrai problème. Il y a quand même un témoin qui parle de 6000 téléphones par mois qui doivent être détruits faute de pouvoir être débloqués, alors qu'en général, bah, ils sont à 99%, enfin 99% de toute façon des téléphones qui sont obtenus pour le recyclage ont été obtenus de manière parfaitement légale. Hein. Et donc c'est vrai qu'à l'heure de la loi anti-gaspi en France, on peut se poser la question. On a aussi d'ailleurs aux États-Unis des préoccupations un petit peu pareilles. Il y a une organisation d'acteurs du refurbishing et le FF d'ailleurs qui tentait une action en justice, hein, pour avoir une exemption et pouvoir avoir le droit de déplomber les machines pour lui donner une seconde vie, quoi, tout simplement. Je pense que ce serait pas mal.
Ouais, tout à fait. Les méthodes seraient simples, hein. Finalement, ce serait effectivement de pouvoir ouvrir des droits à des entités partenaires pour la réparation, mais je pense même que il peut y avoir des messages pédagogiques au moment où on lance un certain nombre d'actions, quand on le remet à zéro, en gros, qu'il puisse y avoir une grosse pop-up qu'on t'oblige à lire, tu vois, au même titre que t'as les conditions générales d'utilisation, ça peut être même plus sexy en expliquant ce qui va se passer. Je pense que là, il y a un rôle pédagogique assez clé qui est pas assumé là-dedans. En tout cas, tu l'as identifié dans ta veille. Apple prend soin de ses employés, hein, on peut l'imaginer, c'est une entreprise américaine telle qu'on les connaît bien, qui prend soin de tous ses collaborateurs, mais il y en a un qui fait l'objet de difficultés. C'est un monsieur qui a travaillé pour la filière relative à la production de processeurs chez Apple, qui vit des jours un peu difficiles en ce moment, Guillaume.
Même c'est marrant parce qu'on pourrait avoir bientôt des puces Apple ou des puces qui sont très proches, en tout cas un petit peu de la même espèce, hein, dans des serveurs ARM. Alors c'est pas la volonté de Tim Cook, hein. Loin de là, c'est même un combat en cours entre Apple et Gérard Williams, donc qui est ex-chef architecte des puces iPhone, et qui est parti pour fonder Nuvia, une boîte qui veut fabriquer des puces pour data center. Donc c'est une boîte qui a engrangé 53 millions de dollars d'investissement, qui regroupe d'ailleurs des grosses têtes de chez Google et AMD aussi. Hein. Et puis Apple, bah, il accuse Gérard de violation de contrat, de vol de technologie, et pire, de défaut de loyauté, hein, puisqu'il a commencé à organiser son petit business alors qu'il était encore chez Apple, y compris en essayant de débaucher ses petits camarades, hein, donc bon, ça se fait pas
bien.
De préparer son petit business suivant quand on est en poste.
Bon,
hein, voilà, même si un certain ministre, à un moment d'ailleurs, a fait ça, il me semble, il y a 3 ans. Mais bon, bref, donc Gérard se défend déjà, il se dit que sous la loi californienne...
Je n'avais pas compris le lien, pardon.
Ça tient pas cette histoire de clause de non-compétition, parce qu'en fait, en Californie, apparemment, ça n'existe pas, ce genre de truc. Et bon, en plus, Apple se base, pour ses attaques, hein, sur des textos et sur le contenu des coups de fil avec ses collègues, et c'est là que ça devient rigolo. Parce que, à sa connaissance, personne n'a signé pour une écoute massive de ses communications chez Apple. Donc, suite le 21 janvier, mais donc c'est quand même cocasse, hein, de voir que le chevalier blanc de la vie privée met sur écoute ses propres employés. Ah, mais c'est pour leur bien, je suppose. C'est pas du tout de la paranoïa, hein, c'est juste pour leur bien, pour savoir s'ils vont bien, tout ça, tu vois.
Bon, on verra ce qu'il en est, mais effectivement, si ça se confirme, c'est assez dingue. Mais après, Apple est assez connu pour faire en interne ce qu'il promet de défendre en externe auprès de ses collaborateurs, hein. Les parcours de recrutement chez Apple se font dans des étapes très, très, très rigoureuses, avec des explications très récurrentes du danger qu'il y a à ne pas jouer jouer le jeu en interne. Ça ressemblerait presque à un parti extrémiste, dis donc. Bon, on va continuer à parler de nos smartphones, mais on va s'éloigner un petit peu d'Apple. Quoique, hein, on identifie peut-être les technologies qui pourraient arriver demain, parce que il y a des rumeurs persistantes qui indiquent que le Touch ID pourrait faire son retour, donc cette possibilité de s'identifier sur son smartphone en posant son doigt avec une empreinte digitale, avant qu'il y ait Face ID, Apple mettait en avant évidemment Touch ID. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que quand ils ont présenté Face ID, donc la reconnaissance faciale, ils ont dit que c'était bien plus précis, qu'il y avait moins de taux d'erreur et que c'était plus fiable. Et donc en gros, bah, il y avait toutes les raisons de penser que ça allait remplacer Touch ID. Mais pour autant, il y a des rumeurs qui continuent à arriver, qui nous disent qu'on pourrait avoir le retour d'un Touch ID sous l'écran. Et en tout cas, c'est une technologie qui est expérimentée actuellement. Il faut pas aller très très loin, hein. Il suffit d'aller se pencher sur les Samsung Galaxy S10 ou les Note 10 qui intègrent ces reconnaissances d'empreintes digitales dans l'écran. C'est pas les seuls et ça fait l'objet de quelques réflexions en termes de technologie, Guillaume.
Ouais, alors du côté de Samsung d'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle Lee Jong-wook qui travaille là-bas, hein, chez Samsung, et qui dit que globalement, ça n'a pas été un franc succès. On sait pourquoi. Le capteur ultrasonique sur le Galaxy S10,
on en avait parlé d'ailleurs.
Ouais, voilà, il n'est pas impossible qu'il laisse tomber le scanner d'empreintes par ultrason, tout simplement. Voilà, ce serait une possibilité.
La technologie, hein, petite parenthèse, la reconnaissance par ultrason, c'est la technologie qui est utilisée aujourd'hui pour reconnaître les empreintes digitales à travers l'écran, c'est que via les ultrasons, on arrive à récupérer les reliefs liés au doigt, mais on avait expliqué que simplement la pose d'écran, de protection d'écran, pouvait poser problème et faire en sorte que n'importe quel doigt soit reconnu comme le bon doigt du propriétaire, et donc évidemment, en termes de sécurité, c'est un peu limité, quoi.
Exactement, alors du coup, on se demande un petit peu si Qualcomm 3D Sonic Max aura ce genre de problème, parce que c'est vrai que Face ID et Touch ID, donc à la fois, ce sera plutôt cool, hein, sur un iPhone 12 et sur un éventuel iPhone 12, moi j'aime bien le truc par empreinte digitale, je trouve que c'est assez pratique. Mm-hmm. Et c'est vrai que le 3D Sonic Max, c'est des belles promesses, puisque non seulement il y aurait aussi donc un capteur sous l'écran qui fonctionnerait aussi de manière ultrasonique, mais en plus, ce serait une surface large. Et donc, ce serait assez pratique, puisque tu pourrais avoir la place d'ailleurs pour mettre deux empreintes, si tu veux. Le capteur est 17 fois plus grand. Et en plus, il a une précision qui est largement meilleure, puisqu'elle est de 1 sur 1 million, d'une erreur sur 1 million, au lieu d'une erreur sur 50 000. Donc, c'est quand même de jolies promesses, hein, pour Qualcomm. Ouais. Peut-être pour un Galaxy S11 ou Galaxy Note 11, on verra, c'est pas impossible. Mais d'ailleurs, Qualcomm a fait pas mal d'annonces ces dernières semaines-là. Et donc, à part ça, il a aussi annoncé donc des puces haut de gamme en 865, c'est milieu de gamme 765, et c'est plus pour PC Windows que donc 8C et 7CX. Alors, bon, si on peut en toucher quelques mots éventuellement. C'est des trucs qui vont se retrouver dans les haut de gamme l'année prochaine. Hein, donc, globalement, les 865 sont 25% plus mieux meilleurs que les 855. Bon, comme d'hab, hein, avec des nouveaux cœurs Cryo 580. 25, en Cortex A77, nouvelle ISP, nouvelle GPU, écran 144Hz, youpi, le tout en 7 nanomètres, avec un modem 5G X55 externe cette fois. Donc le X55, il supporte des débits jusqu'à 7 gigabits par seconde, mais surtout, en fait, il supporte une plus grande variété de fréquences, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la 5G, en fait, il y a plutôt les 5G. Puisque aux États-Unis, par exemple, il y a des 5G qui se déploient à 600 MHz, sur des bandes de fréquences de 600 MHz, 2,5 GHz.
Comme c'est le cas pour la 4G, si je dis pas de bêtises, et même la
3G. 2,5 GHz, oui, tout à fait, exactement. Mmh. C'est plutôt des bandes de fréquences basses. Et donc, c'est vrai que nous, enfin, peut-être qu'implicitement, on pense plutôt à la 5G dans la gamme micro-ondes, à 6 GHz. Quand on a la hype de la révolution 5G, on parle plutôt à 5 GHz. Mais en fait, il y a toute une gamme de 5G. Donc effectivement, il y en a qui auront des débits plus ou moins, et des latences d'ailleurs, plus ou moins importantes, ça va dépendre de la gamme de fréquences qui est utilisée, parce qu'il y a aussi des facilités de déploiement qui sont là ou qui sont pas là. C'est vrai que déployer des antennes micro-ondes, c'est un autre défi technologique, quoi. Et donc il y a de la 5G qui se déploie actuellement avec des antennes qui sont pas du tout micro-ondes et qui sont plus faciles, et qui sont déjà en cours de déploiement aux États-Unis, et qui sont même d'ailleurs peut-être déjà fonctionnelles. Et bon, bref, il faut quand même couvrir tout ça, quoi. En Chine aussi, d'ailleurs, il y a des 5G avec différentes bandes de fréquences. Donc, dans les SoC haut de gamme, donc il y aura donc ces modems qui seront des modems externes. Alors qu'étonnamment, dans le milieu de gamme, qui sont 765 et 765G, qui est une version un petit peu boostée au niveau graphique, hein, pour les gamers apparemment, le modem 5G sera intégré. Donc c'est qu'un X52, donc c'est quand même deux fois moins rapide que X55, mais le fait qu'il soit intégré, ça va quand même permettre de réduire un max les coûts de production, et ça va réduire aussi la consommation électrique. Et c'est quand même des puces qui sont pas ridicules, hein, avec 2,4 GHz et 6 cœurs économiques, 2 cœurs 2,4 GHz, et donc 6 cœurs un petit peu moins puissants, et ça pourrait donc suffire pour énormément de terminaux au milieu de gamme, d'autant qu'ils sont équipés en Wi-Fi 6, hein, comme les aînés, hein, et ils ont des perfs graphiques qui sont aussi très honorables. Donc ça, c'est, enfin, honnêtement, c'est presque plus intéressant en fait que le flagship qui est pas très étonnant, quoi, tu vois. C'est voilà, c'est une mise à jour du flagship de l'année dernière. Et donc là, il y a un petit peu le même phénomène pour les séries C, là. Donc la série C, c'est pour les ordinateurs. Donc on avait le 8CX, le Snapdragon 8CX, qui est donc l'année dernière intégré 4 Cortex A76 à 2,84 GHz en DDR4, hein, ce qui concurrençait sans problème des i3, des petits i3, sans trop de problèmes, mais alors, évidemment en mode natif. Donc voilà, c'est ça, c'est des, on a trouvé ça sur des machines comme la Surface X. Et c'est donc la Surface X, on sait que c'est une machine qui est pas mauvaise du tout, mais qui
est pas géniale non plus,
mais qui doit utiliser comme toujours, hein, cette couche de transduction, émulation pour exécuter les applications de PC, qui l'handicape toujours malgré tout. Mais en natif, les performances sont pas mauvaises de ce truc là donc là, écoute, pour le moment, si tu veux, le problème, c'est que c'est quand même des terminaux qui sont assez chers, surtout pour les perfs qui sont donnés. Et donc, Qualcomm a sorti une autre série de puces, donc les 7C et les 8C, qui ont des performances un peu en retrait, qui sont prévues pour être appairées aussi avec des modems 5G X55. Donc le 8C serait assez proche, hein, donc avec assez proche du 8CX quand même. Et le 7C, par contre, va se contenter d'un modem LTE, donc 4G, mais en interne. Et donc globalement, le segment visé, c'est les ultrabooks qui sont toujours connectés, mais à moins cher, disons vers les $800 pour le 8C, et peut-être encore moins probablement même encore moins pour le 7C. Et c'est pas mal, parce que les Galaxy Book, le Galaxy Book X par exemple, qui repose d'ailleurs sur 8CX, il coûtait 1000 balles, et le Surface Pro, je pense qu'il coûte quelque chose comme 1200 balles, donc c'est quand même vraiment plus cher. Donc 800 balles, c'est quand même assez appréciable, quoi. Bon, c'est, voilà, alors, sinon, effectivement, pour ceux qui se posaient la question de savoir si la 5G était dangereuse ou pas, t'as mis un lien de l'Arpansa.
Effectivement.
L'Arpansa, c'est l'Australian Radiation Protection and Nuclear Safety.
Oh, tu le fais toujours tellement bien.
Qui a annoncé qu'il n'existait aucune étude mettant en évidence une dangerosité de la 5G. Bon, ils disent que le problème est la puissance, hein, que cette puissance n'est pas augmentée par le nombre d'antennes, parce que le nombre d'antennes, en fait, les antennes seront plus nombreuses, mais elles seront moins puissantes. Alors, bon, on dit ça vite, parce que comme encore une fois, la 5G, je suppose qu'ils pensent à la 5G et micro-ondes, hein, à 6 GHz. Donc à 6 GHz, c'est des antennes qui sont plus nombreuses, tout simplement parce que les ondes à 6 GHz, elles vont moins vite et elles sont beaucoup plus facilement arrêtées par les obstacles que les ondes 4G. Et
donc il faut davantage
d'antennes, mais elles sont aussi moins puissantes, du coup, puisque elles couvriront des zones qui sont moins grandes. Et que dans ce cadre-là, il n'y a pas réellement à s'inquiéter, en tout cas d'après ce qu'ils disent. Et ils annoncent aussi d'ailleurs des tests en double aveugle qu'ils ont menés sur les personnes qui sont dites électrosensibles. Et bon, d'après leurs tests, les électrosensibles ne détectent pas mieux la présence ou l'absence de champs électromagnétiques que les personnes qui ne sont pas électrosensibles. Donc il y a des symptômes réels, mais apparemment il n'est pas possible de les mettre en relation avec la présence de radiation comme le Wi-Fi ou le téléphone. C'est des conclusions qui sont, je crois, conformes avec celles de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire grand-chose de plus là-dessus, quoi.
Mais en tout cas, ça planche sur le sujet. Hein. Ça fait 2-3 fois qu'on relaie des études sur le sujet. Allez, on va s'éloigner un petit peu de nos appareils qu'on porte. Là, vous avez bien vu, hein, le panorama avec les smartphones. On va passer à d'autres sujets qui sont plus des mouvements stratégiques d'entreprises et de nouvelles technologies. Le premier, c'est celui qui est lié à la mobilité. On va parler une nouvelle fois d'Uber. Et malheureusement, en ce moment, quand on parle d'Uber, on n'en parle pas toujours en bien. Voire même, en ce moment, c'est plutôt très chaud puisqu'il y a un mouvement en ce moment qui s'est manifesté notamment sur les réseaux sociaux, qui dénoncent un petit peu les difficultés et les agressions qui sont un petit peu légion quand on utilise Uber. D'ailleurs, le mouvement s'appelle Uber, c'est over. Et donc, ce mouvement prend de l'ampleur et du coup, l'entreprise Uber a publié pour la première fois un rapport sur la sécurité. Il faut comprendre la sécurité des passagers, mais aussi des conducteurs. Et malheureusement, ce qui est mis en lumière, c'est qu'il y a un nombre important d'agressions d'agression, d'agression sexuelle, de viol, voire de meurtre. Et c'est un petit peu bizarre au niveau de l'interprétation, mais le porte-parole d'Uber a dit que, alors c'est même le CEO qui dit, j'imagine que des personnes seront surprises du nombre assez faible d'incidents, d'autres diront à raison que c'est encore trop. Je sais pas s'il aurait pas mieux fait de s'abstenir pour apporter ce type de qualification, mais en tout cas, 3045 agressions sexuelles subies durant un trajet en Uber en 2018. C'est édifiant, Guillaume, non?
Ouais, ça manque de délicatesse, mais parce que bon, en fait, le truc, c'est qu'il a raison, mais ça dépend du point de vue, si tu veux, tu vois, c'est bon.
Non, mais c'est pas parce qu'il a raison rapport, que c'est bien dit.
Oui, voilà, c'est un peu très mal dit, parce que bon, ok, voilà, on va dire les chiffres, hein, c'est simple, hein, c'est sur un rapport qui porte sur un peu plus d'un an, sur 2018 et un peu 2017, il y a 3045 agressions sexuelles, 235 viols et 9 meurtres. Il y a aussi d'ailleurs eu 58 accidents mortels pour le compte. Évidemment, c'est effrayant, hein, c'est sûr. Mais bon, après, le truc, c'est que la période représente tout de même plus de 1,3 milliard de trajets. Et donc rapporté aux statistiques nationales qui font état de 36 000 morts sur les routes, une proportion est quand même exorbitante, hein, de 44% de femmes victimes d'agressions sexuelles au moins une fois dans leur vie. Bah, le rapport d'Uber n'est pas d'un point de vue purement statistique, très étonnant. Tu vois, c'est un point de vue purement statistique. Donc, du coup, on comprend aussi mieux les boutons d'alerte et les enregistrements dans les véhicules, tu vois, les tests qui sont faits pour améliorer la sécurité des trajets dont on parle des fois là. Évidemment, c'est un petit peu, on comprend mieux. D'ailleurs, même si Uber s'empêche de dire qu'il s'agit donc que rapporté au nombre de trajets 0,000, enfin il y a 4,012% des courses, le rapport a fait quand même fait plonger l'action de 2,7%, ce qui fait une perte de capital de 1,4 milliard de dollars pour Uber. Donc, comme le dit Tony West, qui, manière malheureusement, je suppose, assez juste, hein, Uber, c'est le reflet de la société dans laquelle il évolue. Et donc, c'est déprimant, parce qu'effectivement, c'est la société qui est violente aussi. Et bon, ben voilà, les statistiques sont un peu en rapport. Alors, c'est pas seulement Uber, d'ailleurs. Hein, Lyft, en ce moment, est poursuivi en ce moment même par 20 femmes pour les mêmes raisons. Hein, et il n'y a pas seulement aux États-Unis, il y a aussi en France, et où il y a des cas. Et donc, voilà, c'est. Alors, évidemment, hein, ça reste bien heureusement très très rare. C'est-à-dire, en gros, à rapporter au nombre de courses, si tu veux, la proportion est heureusement quand même faible. Donc, bon, c'est peut-être ça que veut dire le PDG d'Uber. Après, évidemment, c'est toujours et encore beaucoup trop. Mais de ce point de vue, c'est aussi toujours et encore beaucoup trop dans la vie, tu vois, c'est-à-dire hors des taxis Uber, quoi, hors des VTC. Là, on s'intéresse à ce qui se passe dans les VTC, mais en réalité, c'est des chiffres qui finalement font écho à des chiffres qui sont malheureusement beaucoup trop élevés dans le reste de la vie, quoi, tu vois, c'est ça le problème.
Bah, c'est-à-dire que je serais curieux, et ça doit exister d'ailleurs, d'avoir des rapports équivalents, par exemple pour la RATP ou des sociétés qui ont beaucoup de trafic. Je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup à dire, et tu as raison, c'est le reflet de la société. Après, c'est toujours délicat. Moi, je suis toujours un petit peu gêné par cette approche, même si elle est réelle, hein, de dire c'est à peu près équivalent à ce qui se passe dans la société, ou c'est un peu en dessous, etc. Parce que ces services sont d'une telle promesse que pour moi, les statistiques devraient être énormément inférieures, parce que les ressources allouées à la protection des gens devraient être énormes. Mais évidemment, c'est aussi très, très théorique comme vision, et c'est difficile à mettre en application. C'est en tout cas quelque chose à suivre, et surtout, ce qu'il faut suivre, c'est les actions qui vont être mises en place. Alors, un autre mouvement qu'on peut partager, c'est un rachat. C'est PayPal qui rachetait une entreprise. Ça n'a pas l'air d'être si fréquent que ça que PayPal rachète des entreprises, surtout d'aussi grosses entreprises, ou en tout cas d'aussi gros rachats. Là, on parle de 4 milliards de dollars pour ce rachat. Il y a deux choses à relever. Donc, ils rachètent Honey Science Corporation, qui est une entreprise de bon plan, si j'ai bien compris. La première chose, c'est que moi, je découvre cette entreprise. Je confesse très humblement que je ne connaissais pas du tout cette entreprise qui, pourtant, rassemble 17 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de me rendre compte que PayPal veut mettre pour la première fois, alors que j'aurais imaginé qu'ils auraient peut-être dû et pu faire ça bien plus tôt, mettre un premier pied dans le parcours d'achat, autre que simplement le paiement, enfin, quand on concrétise l'achat en ligne ou quand on concrétise le virement d'argent, le transfert d'argent. C'est hyper intéressant de voir qu'ils mettent un pied dans ce processus d'achat. J'ai remarqué, avant de te laisser dérouler un petit peu cette vision du rachat que tu as pu avoir, Guillaume, je suis tombé sur une vente en ligne là, de Carrefour, mais qui est faite par Google. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en passant par le navigateur et par le moteur de recherche Google, tu cherches un produit et tu peux être amené à l'acheter avec une expérience 100% Google. C'est Carrefour qui te le vend, mais tu as le panier Google. D'ailleurs, si tu le reprends sur un autre appareil sur lequel tu es connecté chez Google, tu retrouves ton panier, tu peux le valider, tu peux avoir des codes de réduction Google et ce qui t'est facturé, c'est via Google Pay et tu as évidemment tout le suivi via ton compte Google. Finalement, tu peux même ne pas être client Carrefour pour acheter ton produit. Donc moi, j'ai trouvé ça assez dingue à titre personnel parce que je ne savais pas que ça allait jusque-là. On en découvre tous les jours et je suis évidemment très étonné que PayPal mette un premier pied dans ce parcours que maintenant en 2019. Je suis le seul à être étonné, Guillaume ?
Non, mais moi non plus, je ne connaissais pas Oni. Il faut dire que je peux l'impression que c'est une extension. Alors déjà, c'est une extension pour navigateur au départ et c'est encore beaucoup une extension pour navigateur qui effectivement cherche les meilleurs prix pour les articles que tu es en train de regarder. Bon, après, il y a aussi d'autres services, hein, un petit peu du même genre. Et moi, je connaissais pas du tout non plus. C'est très développé aux États-Unis pour ce qui est 17 millions de gens. Il connaît environ 30 000 sites. Donc, il traque les promos, tout ça. Et c'est vrai que, oui, effectivement, c'est malin puisque PayPal, il permet aux gens de payer des trucs. Mais voilà, t'as tout dit. De toute façon, hein, c'est encore faut-il qu'ils aient des trucs à payer. Et Oni, son métier, c'est de trouver des trucs à acheter. Donc, comme de toute façon, le paiement c'est strict, c'est de plus en plus concurrentiel quand même, puisqu'il y a Apple qui s'y met, il y a Google qui s'y met, il y a Facebook qui s'y met, on en parle tout très très souvent, ça va donner une forme de bouffée d'oxygène à PayPal, puisque c'est vraiment transformatif, puisque c'est pas du tout son cœur de métier en réalité le shopping. Hein. Mais du coup, en se mettant en amont un petit peu du paiement stricto sensu, c'est vrai que il se diversifie et peut-être qu'il va ça va lui donner une bouffée d'oxygène un petit peu bienvenue si tu veux parce que c'est vrai qu'avec la prochaine entrée de Facebook éventuellement dans le paiement etc, ça va devenir un petit peu compliqué quoi.
Ouais, effectivement, on est d'accord. Mais c'est quelque chose à suivre et je suis vraiment très étonné, encore une fois, que PayPal fasse ce move que maintenant. On va le suivre. Alors, autre mouvement qui n'a pour le coup rien à voir, mis à part le fait qu'on parle de grands, et quand même en faisant écho à Google que je viens de citer, il y a quelque chose qui a été acté, alors qui en fait ne représente pas un gros mouvement en soi, mais qui illustre plutôt quelque chose qui était déjà constaté. C'est en gros une pré-retraite de la part de Sergey Brin et de Larry Page, les cofondateurs de Google, qui étaient auparavant à la tête d'Alphabet et Sundar Pichai était à la tête de Google spécifiquement. Ça y est, il laisse la place. Sundar Pichai va avoir la main non seulement sur Google, mais aussi sur Alphabet. Bon, c'est un mouvement pas si conséquent que ça en termes de conséquences, puisque, comme je le dis, ça illustre plutôt une situation de fait. Mais quand même, ça fait un petit peu date, Guillaume.
Ouais, c'est une nouvelle qui a fait grand bruit dans les médias, alors que c'est vrai qu'elle aura probablement aucun effet notable en pratique, hein, puis c'est vrai que le grisonnant Larry Page et le playboy Sergey Brin, on les voit plus trop depuis 2015, hein, depuis la création de la holding Alphabet, en gros. Mais bon, c'est vrai que c'est l'occasion de faire un point rapide sur l'histoire de Google, tu vois, où donc Google, souvenez-vous, hein, les deux compères de Stanford qui ont lancé Google en 96, sur l'idée du PageRank, ils n'ont pas eu de mal à déléguer déjà par le passé leur pouvoir à plein de gens. Google, il a une histoire qui a 20 ans maintenant, donc un petit peu plus. Et il a quand même failli être, revendu à plusieurs reprises. Il a failli être vendu à Excite en 99 pour 750 000 dollars. T'imagines, c'est fou. Hein. Trois ans plus tard, Yahoo voulait le racheter pour 3 milliards de dollars. Et c'est un truc qui a longtemps été dirigé par Eric Schmidt. Hein. Dès 2001, en fait, on a bien connu cette époque, depuis moins 2004. D'ailleurs, il y a eu l'entrée en bourse. Page Brin crée un nouveau type de siège au conseil. C'est les parts de type B, en fait, qui ont 10 fois la puissance de vote d'une part classique. Donc il y a eux, il y a Schmidt, il y a quelques autres types, hein, qui donc se sécurisent un pouvoir permanent sur la boîte, alors qu'elle entre en bourse à 27 milliards de dollars. Hein. Donc elle a levé 1,4 milliard en cash d'ailleurs au passage en 2004. Et bon, le but, en gros, c'était de préserver Google sur le long terme, en le préservant des spéculateurs et des aléas de gouvernance. Et bon, même s'il laisse la garde du bébé à Eric, ça ne les empêche pas de prendre des initiatives, hein, et des très bonnes initiatives, puisqu'en 2005, c'est Larry Page qui rachète Android sans même le dire à Eric Schmidt. C'était une bonne
il
affaire.
Il l'a fait en
plus. 50 millions de dollars, il l'a payé. C'est bien investi, je pense. Bon, ça a été plus difficile pour Suzanne Wojcicki de convaincre le board de l'acquisition de YouTube pour 1,65 milliard de dollars, quand même.
Et pourtant.
Et c'était aussi une bonne idée. aussi, tu vois. Et donc, ce Sundar Pichai, lui, il arrive en 2014. En 2014 et l'histoire de Pichai, c'est presque un modèle de rêve américain. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un film qui soit fait là-dessus dans les prochaines années.
Ouais.
Parce que c'est un Indien, donc il vient d'une famille modeste, hein, tu sais, qui vivait à quatre avec ses parents et son frère dans deux pièces à Madras. C'est un ingénieur, fils d'ingénieur électricien. Donc, il a fait ses études sur place à Madras en métallurgie. Et par mérite, il a obtenu une bourse pour aller à Stanford, où il va se spécialiser en sciences des matériaux. Puis après, il ira à la Wharton School, où il sera distingué d'ailleurs aussi. Et puis, il va travailler pour McKinsey, et enfin pour Google, où il va devenir chef de projet innovation. Et alors, c'est lui d'ailleurs qui incite PageBrain à débaucher les gars de chez Mozilla, et à lancer Chrome, le navigateur. Et aussi Chrome OS, d'ailleurs, sur la lancée. Schmitt n'était pas d'accord avec ce move d'ailleurs, mais c'est Larry Page qui a réussi à le convaincre.
J'ai l'impression que quand Schmitt il est pas d'accord avec un truc, faut le faire. Ça cautionne un peu, tu vois. C'est pas bien ce que je dis parce que ça résume alors que c'est pas vrai du tout.
Ce qui est bien, c'est que Schmitt se laisse convaincre quand les idées sont pas si mauvaises, apparemment, puisque Chrome non plus, c'était pas une si mauvaise idée, étant donné que c'est le navigateur numéro 1 aujourd'hui. Donc Sundar, il a aussi largement participé à quand même plein de choses, comme Google Drive, Google Maps, Gmail, le Chromebook aussi, WebM, l'ouverture de VP8, c'était... Et bon, c'est vrai que Google s'est énormément diversifié, il a lancé plein de trucs hein, à cette époque-là, il a lancé Calico, la branche santé, la branche santé qui veut tuer la mort, souvenez-vous. Il y a Waymo, bien entendu, il y a les Google Glass, avec les Casey Guy Brin, c'est bien éclaté en 2012. Il y a Loon, plein de trucs marrants aussi, sous le chapeau Google X, hein, on en oublie plein. Et bon, comme c'est le bordel, Page et Brin créent une holding qui s'appelle Alphabet, et Google devient une des boîtes de la holding, et se séparant du reste. Aujourd'hui, Alphabet, c'est 16 boîtes ultra connues, hein, donc il y a de Nest à DeepMind, en passant par Waymo, X, donc Verily, Wing, et Google Fiber, etc., etc. Et bon, vous remarquerez que depuis... C'est qui qu'on voit tout le temps pour défendre Google quand il y a des attaques antitrust qui viennent d'Europe, ou quand il va y avoir des auditions devant le Congrès, quand il y a des doutes sur le moteur de recherche chinois Firefly, quand il y a des scandales sexuels, merci Andy Rudin, quand il y a la controverse des drones militaires aussi, tu vois, ou alors l'affaire James Damor. Et oui, c'est Sundar, hein. Et puis c'est qui lance les nouveaux produits comme la ligne Pixel? C'est Bibi, encore. Donc Sundar Pichai, c'est devenu en gros le visage de Google. Hein. L'action d'Alphabet a presque doublé depuis sa création, et je pense que c'est pas grâce à Calico. Donc finalement, tout ce que fait cette annonce, c'est vrai que c'est reconnaître le talent de Pichai comme gestionnaire, hein, comme ingénieur et comme stratège, à la tête d'un groupe qui frise le millier de milliards de dollars de valorisation. Il paraît que c'est un mec très calme, qui est très apprécié des ingénieurs, d'ailleurs ça en est un. Donc ils se comprennent bien, d'ailleurs c'est aussi pour ça je pense qu'ils se comprennent bien avec Larry Page, qui sont aussi des ingénieurs, qui ont aussi une culture, s'ils sont pas très à l'aise avec les gestionnaires, tu vois, les commerciaux. Mmh. Et donc c'est vrai que voilà, d'une banlieue de Madras, à la tête d'un des groupes les plus puissants du monde, ben ça c'est un scénario hollywoodien, hein, c'est pas mieux que Slumdog Millionaire, tu trouves ?
C'est clair, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il pourrait y avoir clairement un film qui pourrait arriver dans les mois ou les années à venir, et si évidemment c'est le cas, vous pourrez dire que vous l'avez entendu en premier dans Tech Café, je compte sur vous pour le dire haut et fort. Et effectivement, quand tu as quelqu'un comme lui avec cette aura-là, je pense que tu peux être relativement sûr que ton paquebot est bien conduit. Écoute, on verra si ça se confirme dans le futur, il y a peu de doutes à avoir là-dessus. Du coup, Sundar Pichai, il est obligé de faire quelques petits mouvements, ça commence à faire beaucoup pour lui maintenant qu'on officialise un petit peu ses rôles, et il y a un acteur dont on parle de temps en temps dans Tech Café, mais qui va devoir se séparer de sa présence, pas forcément se séparer de la présence de personnes du board de Google, mais c'est Magic Leap, puisque Sundar Pichai s'éclipse un petit peu discrètement de la gouvernance de Magic Leap, Guillaume.
Oui, Magic Leap, un saut magique, mais on ne sait pas vers où, et on ne sait pas dans quel trou pour l'instant.
Dans l'inconnu,
pour le moment, ça va pas très fort. Et ils ont quand même vendu 6000 appareils en 6 mois. Bon, vu le prix, tu me diras, c'est peut-être pas si mal, sauf qu'ils espéraient en vendre 100 000. Donc c'est une performance 17 fois moins bonne qu'attendue, et c'est pas sans conséquence, hein. Il y a des douzaines d'employés, dont des cadres qui ont été virés ou qui ont quitté la société, et donc effectivement Sundar Pichai, qui était membre du board, l'aurait quitté donc en 2018, trop occupé par ailleurs, on peut le croire effectivement, il était bien occupé cet homme. Et donc The Information aurait publié des chiffres donc, qui feraient aussi état d'un Magic Leap 2 qui sera en version prototype, et qui globalement se heurterait aux limites de la technologie actuelle. Bon, comprendre, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut pour le moment, quoi. C'est-à-dire, globalement, le super truc avec une connectivité 5G, des grands angles de vision, une super résolution, ben ça pourra devenir un produit viable que dans plusieurs années. Donc c'est pas génial. D'ailleurs, il y a un autre signe qui est pas très encourageant. Magic Leap a utilisé un portefeuille de 1903 brevets comme garantie auprès d'une banque, la banque JP Morgan Chase. Et pourquoi faire, on ne sait pas. Peut-être pour contracter encore un autre prêt. Ce qui est sûr, c'est que Meta, une autre boîte de lunettes de réalité augmentée, a fait la même chose avant de partir en faillite et d'être rachetée. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite à Magic Leap. Mais bon, force est de constater que le problème, c'est que la concurrence sur le secteur, elle augmente de jour en jour. Ça va être très compliqué.
Ouais, et notamment avec des acteurs de poids, quand on voit qu'un Microsoft propose HoloLens, c'est assez difficile, j'imagine, de tirer son épingle du jeu. J'ai toujours en cours de montage, hein, je suis désolé, j'ai pas pu vous le diffuser avant, mais il sortira avant la fin de l'année, c'est promis, un épisode dédié à la réalité augmentée avec un expert sur le sujet. Je pense que vous serez ravis, comme moi, d'apprendre plein de choses, mais encore faut-il que je m'en occupe. Un dernier mot hein, pour dire que Magic Leap, ils sont en train, effectivement, de renommer le Magic Leap Creator Edition en Magic Leap One. Bon, il y a vraiment juste le nom du produit qui change parce qu'il n'y a rien d'autre change, mais c'est juste pour montrer que c'est plus en mode bêta test mais en mode on vous vend le premier produit. C'est uniquement de la publicité, j'allais dire, de la communication, mais ils vendent aussi une version suite entreprise à plus cher. Ils le vendent près de $3,000 en offrant avec le produit un accès avec un support dédié, un logiciel de gestion et puis un programme de remplacement rapide si jamais le casque présente des défauts. Je sais même pas si c'est bien heureux de présenter les choses comme ça. Pauvre Magic Leap, à suivre. On enchaîne avec une rubrique jeux vidéo, toujours réalité augmentée, mais sous l'angle des jeux vidéo. Il y a deux acteurs qui vont bosser de concert sur un dispositif un petit peu technique, main dans la main, une plateforme à la fois réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est le créateur de Pokémon Go, Niantic, et Qualcomm, Guillaume.
Oui, bah ça va pas arranger Magic Leap donc ça, hein, puisque apparemment Qualcomm semble sérieux avec la réalité augmentée. Il a montré une nouvelle plateforme de développement donc mise au point avec Niantic. C'est une puce, enfin c'est basé sur une nouvelle puce qui s'appelle XR2. Donc il va faire suite au XR1, effectivement, très logiquement. Et c'est une puce qui va désormais supporter la 5G, qui à peu près monte comme d'habitude tous les curseurs par rapport au XR1, c'est-à-dire deux fois la puissance CPU et GPU, quatre fois la bande passante vidéo, six fois la résolution, 11 fois l'intelligence artificielle, et en fait tous ces nombres sont assez significatifs. Et par exemple, le dernier point est important, tu vois. La semaine prochaine, d'ailleurs, bien en avant sur ses propres annonces, hein, l'Oculus Quest va devenir le premier casque, donc le premier casque grand public, à utiliser du hand tracking, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de contrôleur du tout. Les mains sont vues par les caméras extérieures, la position des doigts n'est déduite et les mains sont incluses en 3D dans l'univers virtuel. Et donc tu pourras donc interagir avec l'univers virtuel directement avec tes doigts par geste, quoi. Bon, pour le moment, tu pourras pas faire énormément de choses avec, hein. Il y a une API qui arrivera un petit peu plus tard, mais on perçoit immédiatement le potentiel d'un truc comme ça. Or, si une puce, donc il y a des circuits qui peuvent accélérer la reconnaissance des mains par des modèles de deep learning, et donc soulager le reste de la puce pour afficher le monde en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, ben on perçoit très bien le potentiel de ce genre de truc. Surtout qu'on peut aussi penser à des fonctions de reconnaissance d'expression faciale, qu'on peut traduire in-game par exemple, ou pour la réalité augmentée, la reconnaissance d'objets, qui permet de mieux comprendre les scènes et de savoir mieux incruster les objets. Donc finalement, avoir une puce qui a des puces d'intelligence artificielle dans XR, c'est pas idiot du tout. Et donc tout est bon à prendre, hein, puisque bon, là, par exemple la bande passante, c'est aussi pareil. Ça peut supporter une vidéo 8K en 90 Hz. Et une vidéo 8K en 90 Hz, c'est pas gadget. Quand il s'agit d'une vidéo 360 en VR, c'est ce qu'il faut en fait, parce que 360, ça veut dire que vous projetez la vidéo sur une très grande surface, et que donc il faut que la vidéo soit de base à une très haute résolution, puisqu'elle sera projetée sur un très grand angle. Donc il faut 8K, finalement c'est pas du tout quelque chose de gadget, ça permettra d'avoir une vidéo avec un meilleur piqué. Et donc Niantic est partenaire de long terme de ce jeu, de ce truc là, de ce travail là, mais il y a quand même 5 constructeurs qui vont travailler avec Qualcomm et qui donc travaillent sur des lunettes AR/VR, on ne sait pas, hein, mais en tout cas il est possible qu'on ait une commercialisation en milieu 2020 a priori avec des XR2.
Et puis Adobe qui investit dans la création de VR en rachetant un logiciel d'Oculus qui, semble-t-il, n'est plus vraiment développé par Oculus. C'est un peu bizarre cette histoire, Guillaume, non ?
Ouais, pas vraiment, parce que alors c'est vrai que depuis qu'il y a des casques VR, ou presque, hein, on peut dessiner ou sculpter en réalité virtuelle, et on peut même le faire sur PSVR, on a PaintVR et SculptVR. qui permet de faire, en fait, ça permet de faire du paint, hein, ou de faire de la sculpture vraiment en réalité virtuelle.
Tu fais des zizi en réalité virtuelle.
Oui, absolument. Tu peux faire des zizi en volume et tu peux tourner autour et le faire le plus réaliste possible.
Wow, on est d'accord, tout le monde a fait ça en testant le truc, non?
Évidemment. Donc, sur Oculus Rift, t'as Medium qui te permet de faire des zizi en 3D, en immersion. Mais il y a aussi Quill, qui permet littéralement de se faire des films en VR, puisque c'est l'outil qui permet de modeler, mais aussi d'animer des cartoons dans lesquels tu peux évoluer librement. C'est assez impressionnant d'ailleurs, Quill, hein, qui est version 2 désormais. Et bon, c'est peut-être cette redondance aussi qui a incité Oculus à laisser Adobe racheter Medium, donc il met donc un pied dans la création VR. Et sérieusement, hein, parce que Medium a été utilisé pour le prototypage du jeu vidéo Archangel Hellfire, et d'ailleurs il a été inclus dans le pipeline de modélisation, quoi. Il a été aussi inclus dans la création de Beach Body Bros, et il est utilisé par certains artistes d'effets spéciaux, hein. D'ailleurs, c'est le tout début, mais il est fort à parier que beaucoup de modeleurs seront vachement intéressés par cette approche qui est très organique, très immédiate de concevoir des modèles 3D. Hein. Tu sculptes comme si tu avais de l'argile devant toi, sauf que, bah, évidemment, déjà, c'est pas salissant. Et puis, voilà, tu peux faire undo, ce qui est plus compliqué avec de l'argile. Et donc, en fait, tu as vraiment tous les outils, tous les avantages, évidemment, du numérique, avec la présence et le presque la physicalité du matériau, quoi. Donc voilà, Medium, c'est désormais un outil Adobe, qui pourrait peut-être l'ouvrir à d'autres plateformes et l'inclure dans sa Creative Suite un jour, je sais pas, qui sait.
Tu parles de sculpture en réalité virtuelle, je sais pas si ça permettrait de refaire le film Ghost en mode réalité virtuelle avec les mêmes scènes sensuelles, ou alors peut-être en le refaisant, en changeant le titre en Ghost in the Shell, va savoir. Bon bref, un autre casque.
J'aime beaucoup.
Un autre casque réalité virtuelle et réalité augmentée qui semble être, bah, allez, c'est du lourd, rien que le nom en impose, Varjo. Alors, Varjo, c'est le nom de la marque qui lance le produit.
Oui, exactement. Ghost in the Shell, ça se passe dans une station-service, c'est ça?
Non, je crois pas.
C'est le remake dans une station-service.
Je disais oui naïvement, non, bien joué.
Donc Varjo ou Vario, je sais pas exactement, je crois que ça veut dire ombre alors c'est une langue nordique et j'ai pas fait mes devoirs, j'aurais dû regarder, mais bon, on s'en fout. Vario, voilà, parce que qui d'autre fait du hand tracking que l'Oculus Quest? Il y a le Vario XR1, ça n'a rien à voir avec le Qualcomm XR1, je sais, tout le monde s'appelle X quelque chose dans ce truc là, c'est très perturbant. Et donc le Vario XR1, c'est donc le dernier casque de Vario. J'avais
en
déjà
finnois,
parlé de Vario,
ça veut dire ombre, pardon,
excusez-moi. En finnois, merci, tout à fait. Et donc oui, j'avais parlé de Vario parce qu'ils font des casques pro avec des spécificités de malade, hein, comme des écrans de résolution maximale qui sont à la limite de l'acuité visuelle humaine. Wow. Alors, j'avais déjà expliqué, je crois, hein, il y a deux écrans par œil. Il y a un central qui est donc à la limite, donc qui a 20 sur 20, quoi, à la limite de l'acuité humaine, et le reste en vision périphérique qui est donc en fonction d'un casque. Enfin, un écran de casque VR standard. Et donc, avec le XR1, on peut tâter un petit peu des limites absolues de la technologie actuelle. Parce que le casque, combien il coûte le casque? Je te le demande, à ton avis.
Il coûte 5 000 $.
Non, il coûte 10 000 $. 10 000 €. 10 000 €, c'est-à-dire encore plus de dollars.
12 000 $, quoi.
Et il propose donc de faire aussi bien de l'AR que de la VR, puisqu'en fait, c'est le système de l'Oculus Quest, c'est-à-dire que le casque est équipé de caméras, et que ces caméras, elles sont capables, à la demande, donc, d'envoyer le flux vidéo donc, de la réalité dans les yeux, et donc, en fait, tu peux voir la réalité, sauf qu'à la différence de l'Oculus Quest, c'est en très haute résolution, et c'est en couleur, bien entendu. Donc, en fait, il y a un très bon réalisme qui te permet de voir des gens, de discuter, de continuer à évoluer dans la pièce, sauf que tu es dans la réalité virtuelle, en fait, et que donc tu peux mettre tu peux évidemment rajouter des objets en 3D. Il y a là-dedans, quoi. Donc il y a deux caméras de 12 mégapixels qui sont le flux est envoyé à 90 Hz dans le PC. Le PC le traite et le renvoie au casque. Donc ce qui est assez fou, en fait, c'est même tellement gros comme volume de données, qu'en fait, il n'y a pas de PC qui sont capables de le faire assez vite, et que donc ils sont obligés de faire du rendu fovéal pour la vidéo. Donc en gros, il y a un dispositif de suivi dans le casque, et la pleine résolution de la vidéo, ou du rendu 3D, selon ce que c'est, n'existe que là où tu regardes. Sinon, c'est beaucoup moins précis. En plus du fait qu'il y ait un double écran avec un écran ultra précis au milieu. Donc, les clients de ce genre de truc, c'est Volvo, c'est l'Air Force américaine. Donc, voilà, il y a des possibilités qui sont énormes, hein, parce que par exemple, imagine une simulation de vol ou de bagnole. mais le cockpit peut être réel, donc un vrai cockpit, et tout le reste est virtuel, tout simplement. Donc ça fait des simulations que tu peux faire n'importe comment. Alors c'est vraiment de la réalité mixte pour le coup, tu vois. Donc ils sont allés quand même jusqu'à faire conduire une voiture avec le casque sur la tête, en incrustant par exemple des animaux qui traversent la route. Donc les gens conduisent sur une vraie route à pleine vitesse, dans une Volvo avec un casque VR. C'est quand même assez dingue, hein. Et en fait, Volvo peut l'utiliser pour faire des tests de sécurité ou aussi pour tester des designs de tableaux de bord. Tu vois, le tableau de bord est virtuel, il est incrusté dans la scène. Donc toi, tu interagis avec le tableau de bord avec les mains, ou juste en le regardant, quoi. Parce que, évidemment, comme je l'ai dit, tes mains sont incrustées dans la scène, sont prises en compte de manière tridimensionnelle dans la scène. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de fabriquer plusieurs bagnoles, plusieurs protos avec plusieurs types de tableaux de bord, ben, ils te font juste conduire une voiture avec le tableau de bord qui est modifié comme ça à la demande en réalité mixte. Donc voilà, c'est le genre de truc que tu peux faire. Et donc, c'est le genre de casque qui montre un petit peu l'état de l'art, et ce qui est marrant, c'est que c'est pas parfait. Tu vois, par exemple, les écrans ne sont pas HDR, donc l'exposition pose un problème, tu vois, si l'éclairage varie beaucoup, c'est comme ton téléphone mobile, en gros, hein, c'est-à-dire l'exposition change que selon que tu le pointes vers la fenêtre ou vers le fond de la pièce, tu vois, c'est toujours ce truc-là. En plus, les pixels ont une rémanence qui fait qu'on se rend bien compte que c'est un écran, tu vois, il n'y a pas de... Enfin, tu sens que tu as un écran sur la tête. Tu finis par oublier, mais quand même, tu le sens. Et pourtant, vu le prix, c'est pas une concession. Parce que le prix, il faut dire, de toute façon, le truc est aussi cher que possible. Donc, c'est juste qu'on peut pas faire mieux pour le moment. Donc, c'est déjà impressionnant, hein, et on a hâte, hein, évidemment. On a hâte que le Quest 2 arrive avec certaines de ses fonctionnalités, qu'on pourrait trouver sur le Vario. Mais donc, c'est intéressant, ça donne un petit peu une idée de ce qui pourrait, dans 10 ans, se retrouver à la Fnac, quoi. Donc, c'est marrant de regarder ces casques ultra, ultra haut de gamme.
Eh ben oui, ça fait plaisir. Et puis il faut effectivement des performances survitaminées pour designer la VR de demain. On continue un petit peu avec des news Sony. Alors on aura du Sony, on aura du Microsoft et juste après du OpenAI. Donc on va sauter d'univers en univers. On va commencer juste à parler de Minecraft qui arrive avec le support du crossplay sur la PS4. Et puis un petit mot, parce que je suis sûr que tu vas verser une petite larme parce que tu es un amoureux de la PS Vita et on a eu quelques petits échos qui nous montraient que ce sera mal barré pour avoir un successeur, Guillaume.
Ouais, bah oui, donc comme tu as dit, hein, Minecraft arrive en version Bedrock sur PlayStation 4, ce qui veut dire qu'on pourra enfin jouer sur PlayStation, en crossplay sur PlayStation 4, mais aussi sur Xbox, PC, mobile, Switch, à peu près tout le monde. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour tout ça. Et donc la Vita, ben oui, tu sais qu'avec cette histoire de brevet de petites cartouches, là, enfin de cartouches en tout cas, dont on avait parlé, qui était passé un petit peu comme ça dans les médias, on s'était dit, on s'était demandé, est-ce que ça pourrait être une PS Vita 2? Tu te souviens, des cartouches, ça va certainement pas être pour la PlayStation 5, hein, ben, ça va servir à quoi? Peut-être à une Vita 2. Et ben non, parce que ça a été les 25 ans de la PlayStation, donc il y a eu plein d'interviews, Game Informer a donc publié plein d'interviews. Et donc il y en a une qui malheureusement donc Jim Ryan, hein, nouveau patron de la branche jeux vidéo, a dit sans détour, je cite, la PlayStation Vita fut excellente sur bien des points, l'expérience de jeu était bien, mais c'est un marché sur lequel nous ne sommes plus actuellement. Bon, c'est mort. Désolé, terminé.
Bon, après, le actuellement pourrait être réinterprété en disant que peut-être demain, tu vois.
Ouais, mais alors ça sera peut-être après-demain. Alors, hein, j'ai pas trop d'espoir sur une Vita 2. Et pourtant, comme tu le dis, moi j'aime beaucoup la Vita. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir une Vita 2. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on va se concentrer sur la next-gen avec la PlayStation 5 et la prochaine Xbox qui m'énerve déjà avant même d'être sortie.
Storyfield déjà.
Mais oui, parce que bon, tu sais qu'on avait parlé éventuellement d'une Xbox One qui aurait pu être moins chère, sans lecteur de disque, tout ça. Bon, ok, mais le truc, c'est que la Scarlett, on sait qu'elle a un lecteur de disque, on sait que ce sera la console la plus puissante, et pourtant, ça y est, on est quasi sûr maintenant qu'il y aura une deuxième Xbox une deuxième Xbox Next Gen, qui sera donc pas la Scarlett, mais qui sera donc le projet Lockhart. Alors Lockhart, c'est un nom de code, c'est comme Anaconda pour la Scarlett, c'est un nom de code. Donc Lockhart, apparemment, ce sera une console Xbox One Next Gen, mais pas tout à fait, puisqu'elle sera moins puissante qu'Anaconda, elle n'aura pas de lecteur de disque, mais elle aura quand même un SSD, et probablement une puissance comparable à la Xbox One X, hein, je suppose. Peut-être même un peu moins, vu qu'elle, elle vise le 1440p plutôt que la 4K. Voilà, comprendre qu'elle est un petit peu plus puissante que la Xbox One actuelle, même beaucoup plus puissante peut-être, mais en tous les cas, elle sera pas aussi puissante que la Scarlett. Ce qui fait qu'avant même que la Scarlett de sorte, on sait qu'il y aura une déclinaison moins puissante. Donc, c'est-à-dire une console un tout petit peu next-gen en fonction, tu vois, en face de la console next-gen. Bon, déjà, moi, je serais développeur, ça me gonflerait. Mais alors, là où c'est encore mieux, c'est que la PlayStation 5, elle n'est pas sortie non plus. Et on sait déjà qu'il y aura une PlayStation 5 Pro. Mais oui, parce que, évidemment, là encore, pour les 25 ans de la PlayStation 5, il y a un autre le vice-président exécutif en charge du hardware qui s'appelle Masayasu Ito, dit que, enfin, en gros, il raconte l'histoire du brainstorming qui a abouti à la PS4 Pro, et en substance, il dit, bon, ben voilà, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait faire la PS4 Pro, si ça marche, eh ben, c'est cool, on va faire comme ça maintenant. Et globalement, comme ça marche, hein, puisque la PS4 Pro, c'est plutôt bien vendu, je crois que c'est un quart des consoles à peu près, une quart des PS4 qui sont vendues, c'est des quand PS4 même. Pro. C'est quand même pas mal, donc globalement, ça s'appelle le succès, et on va faire pareil pour la PS5. Donc il est en train de nous dire que globalement, pour 2023, on va avoir droit à une PS5 Pro. Donc, la next génération n'est pas encore sortie, et il y a déjà 4 consoles différentes avec lesquelles il va falloir composer, qui seront plus next-gen que next-gen avec la PS5 Pro, next-gen avec la PS5 et la Scarlett, et un petit peu moins next-gen avec la Lockhart. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es développeur, tu fais quoi? Tu développes pour quelle console? Bien pour Lockhart. Et après, tu tournes le truc pour envoyer plus de pixels si c'est possible. Mais, ben, moi, ça me saoule, quoi. Je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une fragmentation du truc qui arrive. Alors, d'aucuns diront que c'était inévitable, mais je trouve ça vraiment casse-couille de savoir que, bon, ben ça y est, quoi. Genre, d'accord, il y aura la next-gen, la next-gen du pauvre, la next-gen du riche, ça me saoule rien qu'à en parler. Écoute, on verra bien, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais déjà pas content qu'il y ait une PS4 Pro, une PS4 normale. Et tout le monde s'en fout.
C'est clair. Bah, c'est vrai que moi qui regarde un petit peu le marché des jeux vidéo de loin, hein, parce que je suis juste joueur sur la Switch, je me rends compte à quel point l'environnement du jeu vidéo console, il est loin de la promesse de départ qui est de dire tu achètes une console et tu ne te poses pas la question des performances. Mais c'est devenu une mécanique de réflexion en plus. Et d'ailleurs, même, petite parenthèse, hein, même sur la Switch, je l'avais dit, le revival de Zelda Link's Awakening sur Switch, il rame à plein d'endroits et je trouve ça complètement impressionnant.
Moi j'espère, je prie pour qu'il n'y ait pas de Switch Pro, ça me gonflerait.
Bon, c'est vu, moi depuis que j'ai joué à Zelda Link's Awakening version Switch, je suis à peu près certain qu'il y en aura une, mais l'avenir nous le dira. Allez, une initiative pour terminer cette rubrique jeux vidéo qui est, ma foi, fort originale et très intéressante, qui est celle de nous proposer une interaction de type jeu de rôle, un peu, j'ai l'impression, livre dont vous êtes le héros, mais tu vas me confirmer cette impression-là, qui est basée sur l'algorithme d'OpenAI, donc d'intelligence artificielle, Guillaume.
Oui, alors du coup, oui, c'est le livre dont vous êtes le héros, c'est à peu près ça, c'est un petit peu les jeux d'aventure textuels à la Infocom, comme Zork et compagnie, c'est-à-dire, on te présente une scène en texte, c'est-à-dire voilà un texte, voilà on te met en contexte et puis toi tu écris, qu'est-ce que tu fais? En gros c'est des verbes d'action ou voilà ce que tu réponds à un texte, etc. Et donc c'est comme ça que donc effectivement ça ressemble un petit peu à un livre dont vous êtes le héros en plus sophistiqué. Mais du coup, là, effectivement, c'est avec OpenAI. Du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as une super grosse GPU puissante? Eh ben, tu joues maintenant un jeu d'aventure textuelle, parce que paradoxalement, la carte graphique va être largement mise à contribution, puisque c'est GPT-2, dont on a souvent parlé dans Tech Café, qui se révèle être le maître de jeu de ce jeu de rôle-là. Donc GPT-2, c'est un modèle de réseau de neurones qui est extrêmement complexe, hein, qui est spécialisé dans la génération de texte, et c'est lui, donc, qui va se débrouiller avec, de répondre à tes actions. Les résultats sont parfois très surprenants, et comme rien n'est scripté, tout est possible. Tu veux faire la causette avec un squelette, tu peux former un boys band avec des trolls, après tout est possible. Et en fait, sur aidungeon.io, tu peux tester ça toi-même sans avoir de grosses cartes graphiques, tout fonctionne sur un GitHub Google, et le modèle en fait est exécuté à distance. Donc j'ai testé pour vous, et bon, c'est amusant d'ailleurs de tester plein de trucs, évidemment, le réseau reste relativement cohérent quand même, j'ai passé presque une soirée dessus. Mais bon, quand même, c'est pas génial non plus. Déjà, j'ai eu pas mal de problèmes techniques de déconnexion, et bon, ça part en why systématiquement à un moment donné. Bon, donc ça dit souvent n'importe quoi, et c'est assez compliqué, enfin n'importe quoi. Disons que parfois il y a des problèmes de continuité, parfois le réseau sait pas trop quoi te dire, donc il répète un peu ce que tu dis. J'ai eu un petit peu tout, mais quand même, globalement, ça laisse songeur sur le potentiel du truc. Parce que, quand même, rien n'est scripté, quoi. Donc tu choisis ton setup, tu choisis si tu veux de la fantasy, la science-fiction, etc. Tu choisis ta classe, on va dire, si tu es un paysan, si tu es un guerrier, un magicien, ce que tu veux. Et après, il te pond un texte, et après, toi, tu lui réponds, et alors, certes, tu joues pas des heures, parce qu'au bout de 10 minutes, bon, ben, c'est bon, ça part, c'est parti en why, tu sais pas trop quoi faire, ouais. Mais quand même, c'est quand même très fort, quoi. Je veux dire, ce texte, personne l'a écrit. Et il y a vraiment des tournures de phrases et tout, enfin, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, le potentiel est songeur, quand ça sera plus mature, plus adapté au jeu, vraiment spécifiquement mieux fait, tu vois, vraiment spécifique. Imagine, ça peut donner des NPC avec qui tu peux discuter de tout et de rien, en fait. Wow. Il n'y aura plus aucun figurant qui sait rien dire d'autre que bonjour, tu vois. Il pourrait même y avoir des aventures organiques émergentes, tu vois, donc. Clairement, je pense que ça sera une composante des jeux vidéo du futur. Je ne serais pas surpris hein, que les machines de jeu de dans 10 ans, s'il y a toujours des consoles dans 10 ans, il y ait des puces deep learning spécifiques avec des modèles génératifs comme ça qui puissent générer à l'infini des gens avec des personnalités et lesquels tu puisses discuter, quoi, tu vois. Et
ouais.
Pour augmenter nettement l'interaction, ça pourrait devenir vraiment incroyable.
On le voit arriver, en tout cas, c'est les balbutiements. Fascinant. On va presque terminer avec une rubrique en vrac. Allez, on va commencer par un nouveau projet de loi contre le piratage qui s'appuie en partie sur Adopi. On a du nouveau là-dessus, Guillaume.
Oui, bah, très rapidement, ils vont fusionner la CSA et la Adopi dans l'ARCOM. Oh, aucun rapport avec XCOM. Et donc cette ARCOM, on va lui donner des moyens pour lutter contre le piratage, donc en fait plus ou moins les mêmes que maintenant, c'est-à-dire la possibilité de déréférencer les sites, et puis aussi celle de lutter plus facilement contre les sites miroirs, c'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'il y a une action qui est menée contre un site, bah, il ne sera pas nécessaire forcément de tout reprendre à zéro pour le site miroir, donc ça permettra de tirer en rafale. Bon, c'est un projet... C'est pas si tiré en rafale, c'est pas un petit peu disproportionné d'ailleurs, mais bon voilà, c'est plus ou moins ce qui est visé, quoi.
À propos de démarches un peu disproportionnées, on avait parlé de cette attaque face à l'État islamique en ligne, hein, qui avait a priori supprimé une bonne partie de la présence de l'État islamique en ligne. C'était dans les derniers épisodes de Tech Café. Là aussi, il semble qu'il y ait eu un petit peu une méthode un peu violente, Guillaume.
Oui, bah juste pour dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont trouvé ça un petit peu violent parce que une action dite d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, parce qu'ils ont viré effectivement des milliers de comptes qui étaient connectés, des milliers de comptes, des milliers de posts, et donc des milliers de comptes dont un qui avait été créé et qui était géré par la DGSI. En 2016, il avait été créé. Et en fait, donc il y a des vrais djihadistes qui ont été dégagés, des faux aussi, qui suivaient les vrais djihadistes. Et donc ça a été une sorte d'énorme coup de pied dans une fourmilière, et donc ils disent, je cite, maintenant il y a des fourmis partout. Donc les djihadistes sont repartis sur d'autres trucs, hein, d'autres messageries, hein, donc il y en a d'autres dont je ne donnerai pas le nom, d'ailleurs, et l'objectif original qui était donc de réduire l'accès au grand public à la propagande des djihadistes, il a été rempli, hein, puisque maintenant il faut aller ailleurs, il faut aller chercher sur des plateformes beaucoup plus obscures. Cela dit, par contre, ça a éclaté un petit peu les trucs, hein, et du coup il faut aller chercher sur plus de plateformes, et donc refaire aussi, si tu veux, parce qu'il y avait des outils, pour suivre les gens sur Telegram en particulier, ils connaissaient bien la plateforme. Maintenant, il faut se reformer, refaire des outils, etc. On doit se refaire une expérience sur les autres plateformes, ce qui représente beaucoup de travail. Donc, bon, voilà, c'est malheureusement. Hein.
Un suivi d'une mauvaise histoire qu'on avait relayée dans Tech Café, c'est Elon Musk qui avait pris la parole sur Twitter en traitant quelqu'un, il faudrait remettre un petit peu les choses dans leur contexte, mais qui avait traité quelqu'un de pédophile, Guillaume.
Il avait traité quelqu'un de pédophile, ouais, c'est vrai. Alors, c'est une affaire qui date de juillet 2018, hein, souvenez-vous, il y avait un prof de sport qui s'est retrouvé coincé en Thaïlande dans une grotte après la montée des eaux, avec toute son équipe de 12 gamins, qui avaient entre 11 et 16 ans, des gamins qui ont finalement été sauvés par des plongeurs, une centaine de plongeurs, dont un est mort d'ailleurs. Donc ils ont été anesthésiés pendant le processus, ça a été une saga internationale, hein, plus de 10 000 personnes ont été impliquées, dont Vernon Unsworth, un Anglais qui vivait là-bas, et qui avait donc une expertise sur les grottes de la zone. Donc lui et Elon Musk ont eu des échanges peu cordiaux sur Internet. Unsworth était là, et puis il était pour la solution plongeur, et Musk, qui on ne sait pas pourquoi trop, s'est retrouvé persuadé de pouvoir aider dans cette solution, alors qu'il était absolument pas là. Lui, il voulait faire un sous-marin de poche. Bon. Et à l'époque, Unsworth lui avait répondu qu'il pouvait se le mettre où je pense, son sous-marin, et donc Elon a fait des allusions au fait que ce soit un Britannique en Thaïlande intéressé par le sort de petits enfants. et que c'était suspect, ce qui s'était concrétisé par le fameux tweet Pedo Guy, qui vaut à Elon Musk un procès en diffamation, où Unsworth lui demande 190 millions de dollars de dommages et intérêts. Oui. Donc 190 millions, c'est beaucoup pour un tweet, je sais pas. En tous les cas, Pedo Guy n'a pas été retenu comme diffamatoire. Musk a insisté sur le fait que c'était une insulte et pas une diffamation, attention, et que Twitter s'est fait pour ça, pour insulter les gens. Non mais...
si donc, on peut même plus insulter les gens sur Twitter.
C'est exactement ça. Défense pathétique, mais que la cour a jugé valable. Donc, parce qu'en gros, si vous connaissiez Vernon, bah, tu sais qu'il n'est pas pédophile, et si tu connais pas Vernon, bah, de toute façon, ça n'a pas de préjudice pour Vernon, puisque personne ne connaît Vernon, c'est pas une personnalité publique, quoi. Bref, voilà, c'est pas l'Elon Musk qu'on préfère, hein. Donc après le procès de la SEC, on espère qu'il va se calmer sur Twitter et avec celui-là, mais bon, voilà, on n'y croit pas trop.
Autre sujet qui va ravir tous les podcasteurs et ceux qui nous écoutent, c'est qu'on va avoir droit bientôt, là, de manière imminente, à notre Content ID. PEX est un moteur de recherche, au-delà du nom qui est assez génial, est un moteur de recherche spécialisé dans la reconnaissance de musique et de vidéos, et il va pouvoir désormais scanner notamment le catalogue Apple Podcast pour protéger un petit peu les ayants droit, et il va permettre donc d'identifier l'utilisation de musique sur laquelle on n'aurait pas les droits. Alors après, les conséquences, je ne sais pas quelles elles peuvent être, si j'arrive à remettre les mots dans le bon sens, mais tout simplement, dans le pire des cas, peut-être être retiré des catalogues de podcasts, à voir jusqu'où ça va pouvoir aller. L'évolution et la notoriété grandissante du podcast ne va pas pour le mieux, alors même si il faut reconnaître quand même que l'utilisation des musiques, c'est toujours important d'utiliser les musiques pour lesquelles on a les droits, et je dois confesser que pendant longtemps, Tablette Café et Tech Café ont utilisé des musiques pour lesquelles on n'avait pas les droits, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé le générique de Tech Café il y a de ça maintenant quelques mois. Du coup, j'ai bien fait, tu vois, j'ai anticipé le fait qu'il y allait y avoir un Content ID sur les podcasts. Plex, qui est une plateforme qui permet de lire les médias, les vidéos, donc vous hébergez votre propre serveur Plex sur un NAS, sur un ordinateur ou sur un serveur sur internet, vous y mettez des vidéos et vous les mettez de manière très sexy comme Netflix, et il vous permet de les lire avec une interface super agréable sur n'importe quel appareil mobile ou navigateur. Et Plex, au-delà de proposer ce service-là, va désormais intègre même désormais un nouveau service de streaming qui nous amène tout un catalogue de vidéos qu'on n'a pas donc forcément mis dans Plex, et il nous les met à disposition en échange de quelques éléments de publicité. Donc en gros, il se propose une solution de type Netflix gratuit. À voir si le catalogue s'étoffe un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenus qui font rêver, je dois dire, sur Plex dans cette version-là, mais c'est à suivre. Et puis, Guillaume, avis de décès, il reste 10 ans pour profiter de cette bonne vieille ADSL, celle qui nous a permis de nous ouvrir sur Internet, de mettre en ligne nos premiers épisodes de podcast. C'est Orange qui l'a détaillé dans sa feuille de route. Il faut s'attendre à ce que l'ADSL ferme ses portes à l'horizon 2030. Évidemment, l'ADSL continuera d'être un petit peu optimisée entre-temps, mais on va commencer à vraiment le débrancher à partir de 2023 au profit de la fibre. Tu m'étonnes. On a fait le tour de toutes nos news et actualités dans le domaine de la tech. On ne peut pas conclure cet épisode sans vous relayer quelques bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de ce 157e épisode de Tech Café ?
J'ai emmené, je connaissais Jean-Michel Jarre, c'est bon, oui. Parce que tu parles de l'ère. La fameuse ère ADSL, oui, parce que nous on a bien connu la DSL, effectivement. J'ai connu même avant la DSL en fait, mais là je vais vraiment me dire que ça va être très très compliqué. Parce que t'imagines quoi, on a commencé sur des modems 56K, donc après il y a le ADSL, il y a la fibre. C'est vrai que quand tu parles à des jeunes de maintenant, tu passes vraiment pour un dinosaure. C'est pire en pire. C'est déjà qu'ils avaient commencé à virer les câbles de cuivre, tu sais, pour les pour le téléphone. Bon, enfin bref. Toujours est-il que oui, Jean-Michel Jarre aussi, hein, c'est pas d'hier, puisque voilà, c'est dans les années 80 qu'il a commencé à faire de la musique électronique. Bon, si vous aimez l'électro, moi j'aimais bien Jean-Michel Jarre en fait plutôt. Et là, dernièrement, il a sorti un album très particulier qui s'appelle Aeon. Le mot grec qui veut dire éternité, globalement, grande période de temps. Et donc ce truc-là, c'est quoi ? C'est une sorte d'album algorithmique. Génératif, c'est-à-dire que en fait vous payez 9,99€, donc pour l'instant c'est uniquement sur l'App Store, mais ça sera bientôt aussi sur Android. Et donc sur l'App Store, quand vous téléchargez une app en fait, et cette app elle vous génère de la musique de manière infinie. Et en plus elle vous donne une visualisation un petit peu psychédélique, relativement sympa. Et cette musique, ben, c'est de la musique de Jean-Michel Jarre. Alors comment ça marche ? Ben en fait, Jean-Michel s'est tapé des morceaux, donc des structures, des textures, des morceaux qui peuvent s'emboîter les uns dans les autres. Et donc, il y a une application qui génère une musique toujours nouvelle en prenant ces morceaux, en les agençant, en les modifiant, en les mutant. Et donc, ça permet d'avoir un album infini, tout simplement. Donc, c'est une initiative intéressante. Nous, on parle de musique créée par les intelligences artificielles, tout ça. Là, il parle pas d'IA explicitement, mais c'est vraiment de la musique algorithmique. Donc, c'est une initiative assez rigolote, je trouve, pas extrêmement chère. Si vous voulez avoir un avant-goût, vous tapez Eon Jean-Michel Jarre dans YouTube et vous pouvez avoir une heure de démo, en fait, tout simplement, pour voir la tête que ça fait, enfin, la tête, voilà, pour écouter ce que ça donne. Et donc, si ça vous plaît, vous pouvez acheter l'appli et vous aurez donc pour l'éternité Jean-Michel Jarre qui joue rien que pour vous.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des petits malins qui enregistrent effectivement des morceaux d'Eon et qui du coup les rediffusent après en les revendant sous la forme d'un album? J'imagine qu'il y a des conditions d'utilisation.
En fait, Jean-Michel vend lui-même un album qui contient des extraits, inévitablement, d'Eon. Il y a un coffret collector où il y a deux CD sur lesquels il y a des morceaux d'Eon. C'est des extraits de 2 heures, je crois, avec évidemment un packaging et un livret, etc. Et probablement un code pour télécharger l'appli. Mais donc, si vous voulez, vous pouvez juste télécharger l'appli. Alors, évidemment, le problème, c'est que si vous avez bien aimé un passage, vous le retrouverez plus jamais.
C'est ça. Dommage ça. Bon, écoute, très bien. Alors, écoute, je vais être beaucoup moins technologique parce que du coup, ton rapport à la tech est évident dans ton bonus, Guillaume. Moi, je vais vous apporter un bonus, je crois que ça m'arrive de plus en plus souvent, mais qui est extrêmement éloigné de la tech.
Mais c'est bien, ça fait un AFK, comme disent.
Exactement. Il faut savoir faire une pause et il faut savoir débrancher. Et donc, je vais terminer l'épisode en vous invitant à vous débrancher ou plutôt peut-être même en vous recommandant une idée de cadeau. Est-ce que tu as déjà joué au livre dont vous êtes le héros, Guillaume?
Oui, mais il y a très très longtemps. Il me doit m'en rester encore un ou deux, d'ailleurs.
Les bons vieux livres dont vous êtes le héros. Alors moi, j'ai même commencé à en racheter dans des brocantes parce que t'en vois parfois pas cher et tu revois des bons vieux titres de l'époque.
Oui, chez Emmaüs, t'en trouves, effectivement.
Et oui, et les défis fantastiques, les sorcelleries, les loups solitaires, toute cette merveilleuse époque. Et à l'époque, qu'est-ce que tu faisais ? Tu ouvrais ton livre, tu avais ton personnage, tu lisais le premier paragraphe en fonction de tes actions, tu allais à d'autres paragraphes et l'histoire se déroulait un peu comme ça, avec des éléments narratifs, un petit peu d'interaction, des petits combats de temps en temps. Et puis, tu avais même des illustrations assez uniques dans leur style. Parfois même, il y avait des numéros cachés dans les illustrations qui te renvoyaient à des paragraphes selon les éditions de livres dont vous êtes le héros. Et là, je voudrais vous parler de ce qui s'avère être, je pense désormais, à ce stade, mon jeu de société préféré. Ça s'appelle « Le Septième Continent ». Et c'est fait par, je crois, des Français qui se sont rassemblés sous la bannière de l'entreprise Serious Pulp. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et ils ont fait un financement participatif, un Kickstarter, pour ce jeu qui est désormais disponible pour le grand public. Donc, on peut désormais l'acheter, même si on n'a évidemment pas participé au Kickstarter. Et en quoi consiste ce jeu ? Eh ben, vous avez une liste de un peu plus de 900 cartes, je crois, c'est 849 cartes très exactement. Le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez un personnage, mais vous pouvez jouer à 4 en mode coopératif, donc chacun avec son personnage, et puis vous allez suivre de la première carte de l'aventure qui va vous demander de le disposer sur la table, de mettre d'autres cartes autour de la première carte que vous avez posée, et vous allez faire des choix, donc vous dirigez plutôt vers tel côté du terrain, ce qui va déclencher tel type d'action. Et finalement, il y a une première base de règles à découvrir, mais tout se joue sur la base d'interaction avec les cartes. Donc, vous avez juste à lire les textes d'ambiance et à vous laisser guider par les règles qui sont déroulées au fur et à mesure. La mécanique de jeu, elle est simple, c'est que vous devez remplir une mission qui vous est préécrite, un scénario, un des scénarios qui est proposé dans le jeu, avant que vous ne tiriez une carte malédiction dans la pile de pioche. Pour la petite anecdote, en gros, la pile de cartes dans la pioche représente votre votre santé, grosso modo. C'est-à-dire, par exemple, quand vous mangez dans le jeu, et ben, vous reconstituez des cartes dans la pioche. Vous allez pouvoir équiper vos personnages, utiliser certains de leurs talents. Le jeu est vraiment hyper bien foutu, même pour jouer tout seul. Il est magnifique. La version Kickstarter avait des petites figurines en plastique. Alors, les versions définitives, là, n'intègrent plus cela, mais sont malgré tout diablement sexy. Les cartes sont très, très, très belles. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Le jeu est disponible sur le site de Serious Pulp. La boîte de base est à 59€, ce qui, au vu des matériels, est plutôt très intéressant. Donc, si jamais vous aimez les jeux de société, si vous aimez les jeux coopératifs, si jamais vous avez des souvenirs des livres dont vous êtes le héros de votre enfance, ou si vous connaissez un proche pour qui vous demandiez ce que vous alliez pouvoir offrir à Noël et qui répond à ces différents critères, eh ben, allez jeter un coup d'œil. En plus, il y a plein d'extensions. Le jeu est dispo en français, en allemand, en anglais. Il y a tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Est-ce que je t'ai donné envie, Guillaume, d'aller jeter un coup d'œil au 7e continent ?
Mais écoute, pourquoi pas, oui, effectivement, ça a l'air vachement intéressant.
Des bonnes soirées de jeu. Ah oui, autre chose aussi, vous pouvez sauvegarder votre partie, il y a une mécanique avec les cartes. Si vous arrêtez un endroit, vous pouvez mettre de côté les cartes et puis reprendre votre partie quelques jours après, parce que les parties peuvent être assez longues. Bon, dites-moi dans les commentaires si jamais je vous ai convaincu. On ne va pas quitter nos auditeurs, Guillaume, sans rappeler une nouvelle fois le principe de Patreon, qui est la plateforme de financement participatif, qui vous permet de contribuer à partir d'un euro par émission et nous soutenir dans cette démarche, dans le temps qu'on investit dans la préparation des épisodes, dans toute l'animation, dans tout le fonctionnement avec les outils, le serveur, tout ce qu'on peut utiliser au quotidien, la mise à disposition de ce podcast et aussi largement grâce aux personnes qui le soutiennent financièrement. Donc je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, si jamais vous avez choisi de ne pas participer financièrement, je vous invite à aller au minimum vous partagez l'émission à des personnes de votre entourage, des amis, des collègues, des membres de votre famille. À l'occasion des fêtes, vous allez avoir la possibilité de promouvoir la haute qualité qu'il y a dans le podcast et leur faire découvrir Tech Café, qui leur permet de se tenir au courant de l'actu tech. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si, entre deux émissions, on veut interagir avec toi ?
Très difficilement. Peut-être sur Telegram, mais aussi peut-être dans les commentaires où je vais quand même régulièrement.
Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, moi aussi dans les commentaires de techcafé.fr, donc continuez à interagir avec nous à ce sujet, et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.